Je trouve que c'est plus impressionnant d'être debout quand vous êtes comme ça que lorsqu'on est sur le côté. On a beaucoup parlé des bonnes résolutions et c'est vrai que hier on est allé à la salle de sport avec Marie-Léna. Puis j'ai eu la joie de rencontrer Jean Simon qui m'a coaché. J'en ai mal au bras et au dos, mais c'était un bon moment et on a rencontré des gens qui disaient ah, les bonnes résolutions, ben oui, c'est vrai, les bonnes résolutions. À chaque fois, chaque début d'année, je pense à rentrée scolaire parce que les rentrées scolaires, c'est aussi les bonnes résolutions. Quand j'étais à l'école, je me suis dit, bon, un nouveau cahier, des nouveaux stylos et un cahier sans rature. C'est comme quand on a une nouvelle voiture, quoi. On veut que tout soit bien propre. Et puis, jusqu'au moment où c'est le premier scratch sur la voiture, on a les griffes sur le côté. Puis on se dit, bon, c'est tout, quoi. Ça y est, c'est cuit. C'est cuit. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2016. Alors, une bonne année à tous. Et qui d'entre vous a vraiment sincèrement essayé de penser à des bonnes résolutions cette année? Sincèrement, enfin, s'est dit, tiens, il y a des choses que je voudrais changer. Ouais. Je vois quelques mains levées. Et je lève ma main aussi, pardon. Pour moi, les bonnes résolutions, c'est un petit peu comme mon objectif pour 2016, c'est d'atteindre mes objectifs de 2015 que j'aurais dû faire en 2014 parce que je me l'étais promis en 2013 et que je les avais prévus en 2012. Hein? On a du mal à remplir ces objectifs. Hein? Quand on se dit, je vais lire la Bible en un an, par exemple, et puis c'est pas évident de s'y contraindre. Et quand c'est une contrainte, c'est plus bon. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est plus bon. Ça ne produit plus ce que ça pourrait produire. J'ai choisi comme texte, vous l'avez dans les petits papiers que vous avez reçus en entrant, Philippiens. Chapitre 4, versets 4 à 7. Et c'est l'apôtre Paul qui dit à l'église de Philippe, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est une année de grâce, nous rappelait Étienne. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un sacré challenge que nous lance Paul pour cette année, d'être dans la joie. Il ne s'agit pas d'un souhait de sa part, mais d'une recommandation. Soyez dans la joie, mince. Soyez dans la joie. Allez, réjouissez-vous. Je le répète, dit Paul, réjouissez-vous, quoi. Et on comprend quelqu'un qui dirait, ben, c'est nouvel an, ben, il faut être dans la joie, quoi. Mince, on est en train de fêter, on est en famille, là, avec les amis, réjouis-toi. Mais ce qui te challenge dans ce texte, c'est toujours. Et c'est là que réside la difficulté dans cette recommandation de l'apôtre Paul, mais c'est là aussi que réside la bénédiction. Comment cela est-il possible? Alors au premier abord, on se dit, ben cela n'est pas possible. Ensuite, on se raisonne, on se dit, ben Paul le recommande quand même. Donc ça doit être possible quelque part. C'est valable pour un chrétien de compétition comme l'apôtre Paul, mais pas pour moi. S'il avait les problèmes que j'ai, il ne dirait pas cela. Mais on apprend en étudiant Philippiens que Paul écrit ça alors qu'il était en prison et probablement il était en prison probablement à Rome et il avait essuyé un sérieux naufrage juste avant. Donc, il dit pas ça sans savoir. Paul, il a été lapidé plusieurs fois. Il était laissé pour mort. Il a été persécuté par ses propres frères, mis en prison à plusieurs reprises. C'est une réalité de la vie de l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'on peut être toujours joyeux dans un monde où je suis si souvent entouré de sujets de tristesse et on voit comment l'année s'est terminée avec les attentats, les peurs qu'on voit autour de nous. Être toujours joyeux dans les rudes combats que je peux mener contre le péché et dont la plus légère atteinte me remplit d'un amer remords, d'une amère douleur. C'est facile de se réjouir dans des moments d'exception, comme des retrouvailles en famille, ou alors entre amis, mais toujours. Quand on est dans les afflictions, quand on est dans la maladie, dans la douleur, dans le deuil, dans les déceptions, dans les persécutions, dans les difficultés financières, dans les conflits familiaux, dans les problèmes de travail, dans le chômage, dans l'insécurité. C'est difficile. Et c'est même au-delà de toute intelligence. C'est presque incohérent de dire à quelqu'un « Réjouis-toi dans le deuil ». D'ailleurs, on ne le dira pas. Hein. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit « Toujours ». Toujours. Et la clé se trouve dans « Réjouissez-vous toujours ». Dans le Seigneur. Le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur, c'est en fait se réjouir de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Dans ce qu'il est pour moi, dans ce qu'il est pour toi. C'est se réjouir en lui. Se réjouir dans le fait que Jésus, c'est cette personne qui est venue me visiter. Qui est venue visiter les hommes. Qui est venu visiter notre humanité et dans lequel Dieu, la parole dit, s'est incarné. C'est-à-dire le Créateur de toutes choses qui nous entourent est venu, nous disent les Écritures, habiter dans la plénitude de sa personne en Jésus-Christ. Toute la création nous parle de ce moment de l'histoire de Dieu, où il s'incarne dans un homme. Aujourd'hui, c'est... En fait, ce serait quoi dans les fêtes si on suit je dirais l'usage traditionnel? L'épiphanie. C'est quoi l'épiphanie? Les rois mages. Ben ces hommes, des savants, des astronomes, ont vu son étoile en Orient, l'étoile de Jésus, une étoile particulière qui leur indiquait le temps et le lieu où ces choses devaient arriver. Et ils sont venus pour l'adorer, lui apporter des cadeaux. Et Matthieu nous dit qu'ils furent saisis d'une très grande joie lorsqu'ils virent l'étoile s'arrêter au-dessus de l'étable. Mais c'est aussi se réjouir de la vie extraordinaire en sagesse et en sainteté du Seigneur Jésus-Christ, de ses souffrances pour moi, pour toi, de sa mort si précieuse pour nous, de sa résurrection le troisième jour, de son ascension, de son règne auprès du Dieu créateur que nous pouvons aujourd'hui appeler Père, Papa. C'est se réjouir aussi de l'humilité de Jésus, de sa pureté, de son désintéressement le plus complet, de son courage, de son amour, de sa douceur, de sa compassion. C'est se réjouir dans sa puissance, c'est se réjouir dans sa gloire et dans sa majesté. Alors vous dites peut-être, d'accord, mais c'est tellement loin des difficultés dans lesquelles je suis aujourd'hui. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il y a quelque chose qu'on a oublié là. On a dit réjouissez toujours le Seigneur, mais il manque le dans. Dans le Seigneur. Parce que si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien lu, ou vous n'avez pas bien écouté, ou alors peut-être, comme moi, vous avez parfois oublié que c'est dans le Seigneur qu'on se réjouit. Vous voyez, on peut se réjouir comme les mages se sont réjouis, ou comme on peut se réjouir à Noël de penser oh, « Jésus est venu parmi nous ». Et on se rappelle de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour nous. Mais ce n'est pas dans le Seigneur. Jacob Nedelman est un professeur de philosophie de l'Université d'État de San Francisco. C'est un auteur juif qui s'intéresse beaucoup à la foi chrétienne. Et dans son livre « Chrétienté perdue », il examine l'insatisfaction qu'il rencontre la plupart du temps chez les chrétiens concernant l'expérience de leur foi lorsqu'il s'agit de son expression et de la pratique dans le monde moderne. Et il conclut que si l'on compare l'expérience normale d'être chrétien aujourd'hui à celle dans l'Église primitive, celle des premiers temps, il existait une tradition rigoureuse et particulière de formation de disciples. Et il écrit ceci, « L'élément perdu dans la chrétienté, c'est la méthode spécifique et les idées qui peuvent d'abord nous démontrer dans quel état subhumain nous vivons aujourd'hui, et deuxièmement, nous conduire vers le niveau où les enseignements de Christ peuvent être suivis effectivement plutôt qu'en imagination. » Ce qu'il met en évidence, c'est qu'il manque quelque chose, souvent, dans notre monde chrétien contemporain. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Et ce texte dit « Aussitôt le souffle de vie qui devint l'esprit de l'homme entra en contact avec son corps et l'âme en fut le produit. » Dieu prend la terre, il forme un corps, et cette phrase se rapporte au corps de l'homme, la poussière. Et il souffle dans ses narines un souffle de vie, ça se rapporte à l'esprit de l'homme, venu de Dieu, et l'homme devint une âme vivante. Ça se rapporte à l'âme humaine, quand le corps se trouva vivifié par l'esprit de Dieu et donna jour à l'âme humaine. Mais voilà, notre esprit s'est corrompu. Ça, c'est la réalité, notre existence, notre esprit s'est corrompu. Il faut qu'il meure. Pour ça, il faut faire mourir la corruption, le péché en nous, pour qu'ensuite Dieu le ressuscite. C'est l'enseignement de Paul. Et en Jean 3, Jésus commence comme ça, dans un entretien avec Nicodème, et lui dit, mais il faut naître. Nicodème, qui était un pharisien qui venait de nuit, demandait à Jésus, et il pose cette question, mais comment faire pour voir le royaume des cieux? Et Jésus dit, mais il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Et comment, demande Nicodème. Et Jésus lui explique que c'est par un souffle nouveau. Il faut que Dieu souffle de nouveau sur toi, mon frère, ma sœur, sur moi. Un nouveau souffle, une nouvelle vie. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Étienne nous rappelle, c'est le rouard, qui veut dire le souffle de Dieu. C'est ce souffle-là qui a produit la vie. C'est ce nouveau souffle de l'Esprit qui produit en nous la vie. Le mouvement, la vie et l'être, nous est-il rappelé dans les Actes des Apôtres. C'est ça notre vie. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait dire à Paul, nouvelle créature, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et se réjouir dans le Seigneur, c'est le faire en esprit, de cette nouvelle vie. Et vous comprenez bien que pour naître de nouveau, il faut être mort. Il faut avoir fait mourir le corps corruptible. C'est ça. C'est-à-dire le renoncer. Renoncer à ses propres désirs pour recevoir les désirs de Dieu. Alors, on se dit, pourquoi est-ce que je devrais me réjouir, finalement, quand il dit « réjouissez-vous ». Si Paul insiste tellement dans la lettre aux Philippiens, où il le dit dans plusieurs chapitres « réjouissez-vous », et là il le répète, je vous le dis, mais réjouissez-vous, bon sang. Parce qu'il y a des bénédictions qui s'attachent au fait de se réjouir dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur. Et c'est pas mini doux, doux comme un petit nid d'oiseau, cette publicité. C'est pas une serviette douce qu'on frotte contre soi. C'est pas ça, la douceur dont nous parle Paul. Ce n'est pas que ça. Mais c'est véritablement la première expression de l'amour. L'amour qui est patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'aigrit pas contre les autres, qui ne trame pas le mal, attristé par l'injustice. La vérité se réjouit. De la vérité, il se réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. C'est ça, des bénédictions qui s'attachent au fait de se réjouir dans le Seigneur. C'est cela, cette douceur qui devrait être connue de tous les hommes. Cela devrait être l'image de l'Église, avec un grand E, non pas une image dure, rigoureuse, rabat-joie, moraliste, ennuyeuse, mais cette image-là de douceur dont nous parle Paul. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et il y a cette idée fausse que de croire que ça arrive tout à coup. Tout peut changer d'un coup, dans un cœur bien préparé comme celui des apôtres. Mais nous savons qu'après notre baptême, après être mort, et qu'on ait reçu l'Esprit Saint, tout n'a pas changé d'un coup. Ce qu'il faut encore continuer à faire mourir certaines choses en nous, pour que l'Esprit vivifie ce qu'il y a à vivifier en nous. Et la direction de notre vie a certainement changé, mais notre cœur. Il fallait y faire le ménage, il faut encore y faire le ménage, pour faire de la place à l'Esprit Saint. Alors comment cela se passe-t-il? Comment Dieu peut-il agir en nous? Comment le laisser faire? Le Seigneur est proche. Poursuit Paul. dans Philippiens. Il est proche au sens proximité, il devrait être le centre de ma vie, le centre de ma propre vie, de ma propre existence. Qu'est-ce qui est le centre de votre existence ? Trop souvent dans mon existence, le centre de mon existence, c'est moi. Moi, j'ai des désirs qui sont insatiables. Ce monde n'est pas capable de satisfaire mes désirs. Quand je mange du chocolat, j'en veux encore. Et je veux finir la plaque. Mais c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Je me dis, j'aurai ce nouveau truc et après, bon. Et non, une fois qu'on l'a, on en veut encore un autre. Les publicitaires savent ce qu'ils font avec l'homme. Ils connaissent bien notre esprit. Non, il faut que je mette quelqu'un d'autre au centre de ma vie pour être satisfait. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Il est tout proche. Christ doit être au centre de nos existences. Pourquoi il doit être au centre de nos existences ? Pour faire de la place à l'autre. Parce que c'est l'autre qui doit être au centre de notre vie. Ton prochain. Comme toi-même. C'est comme ça que nous sommes invités à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Matthieu, en Matthieu 25, Jésus dit, ben, si vous avez fait ces plus petites choses, donner à manger à celui qui avait faim, aller visiter ceux qui sont en prison, mais c'est à moi que vous les avez faites, ces choses. Il faut mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Mais le Seigneur est proche dans ce contexte et surtout en espérance. Parce que c'est l'espérance qui s'attache à son retour, parce que Jésus-Christ, il va revenir. Et un jour, et je sais que vous avez cette espérance-là, et nous croyons cela, un jour, tout œil verra notre Seigneur. Notre œil le verra. Mais tout œil, partout dans le monde, verra notre Seigneur. Et Paul nous dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, devant notre Seigneur. Ça, c'est notre espérance. Quand il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et cette douce pensée, cette espérance profonde, elle nous conduit dans la prière. Pour lui remettre toutes nos inquiétudes, le fait que je cherche du boulot, le fait que je suis malade, le fait que je me bats avec un péché qui me colle à la peau. J'arrive pas à m'en sortir. Le fait que mes enfants, ils vont pas bien. Tout cela, nous pouvons les remettre au Seigneur. Et puis aussi nos sujets de remerciement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la bénédiction, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une paix incompréhensible à ce monde, parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient de Dieu, cette paix-là, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, il y a une grande différence entre un acte généreux et une personne généreuse, ou un acte courageux et une personne courageuse. La plupart des gens sont capables de temps en temps de générosité. Et par un effort suprême de leur volonté, même d'un acte courageux. Mais il y a une différence entre celui qui le fait une fois et celui qui le fait régulièrement, voire 9 fois sur 10. Il y a l'auteur C.S. Lewis qui illustre cela de la manière suivante. Même un joueur de tennis médiocre est capable de faire un bon coup occasionnellement. Mais c'est très différent que de pouvoir le faire régulièrement, voire 9 fois sur 10. Ce que nous attendons pour un bon joueur, c'est un homme dont les yeux, les muscles et les nerfs ont été tellement entraînés à faire de bons coups qu'il peut faire confiance à son corps lorsqu'il frappe la balle. C'est cette qualité plutôt que l'action que l'on appelle vertu. Les fruits de l'esprit, aux vertus chrétiennes, ce sont des qualités de vie qu'on retrouve chez quelqu'un qui les vit régulièrement dans sa vie de tous les jours, dans différentes actions, différentes situations. Et pour cela, il faut les désirer. C'est bien ce que je dis. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions en 2016? Est-ce que vous avez des désirs? Est-ce que vos cœurs désirent quelque chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez changer? Parce qu'il faut les désirer pour que le Saint-Esprit puisse s'en emparer et produire en nous ce vouloir, mais aussi ce faire, pour que lorsque nous l'écoutons, nous puissions le laisser aussi agir dans nos vies. Et tout cela ne passe pas par nos efforts, ça c'est clair, mais par notre désir qui devient conforme au désir du Seigneur. C'est accepter de mourir pour laisser vivre Jésus-Christ. Alors, je vais finir par cela, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que sa joie et sa paix vous habitent pour cette année 2016. Frères et sœurs. Amen. C'était pas un hasard ce matin quand je suis rentré qu'on ait pris le cantique 221. J'étais dans ma voiture, j'avais pensé à ce cantique hier soir. Et puis j'arrive dans la voiture, je mets un CD, c'était le groupe Héritage qui le chante d'une manière joyeuse. C'est pas entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Voilà, tiens. Tiens. C'est parce que je dois le faire. Non, c'est quelque chose de joyeux. Et je vous invite, on va peut-être pas... Oh, peut-être qu'on va le rechanter. On va le rechanter, mais je vous invite à le prendre comme une prière, parce que c'est vraiment une prière à Dieu. Et Pierre nous invitait à le faire d'une manière sincère, c'est-à-dire avec un cœur qui désire vraiment ces choses. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu rendre vainqueur. Oui, prends.
Mes poumons sauveur, prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
Amen.
C'est le moment des annonces.